Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, j'ai sous les yeux cette semaine un livre qui s'intitule « Les plus grands farfelus français ». Et c'est un livre qui est publié par Hubert Delobette et c'est édité par le Papillon, pas le Papillon, mais le Papillon Rouge aux éditions. Voilà, alors, pour Hubert Delobette, j'ai pris ce qu'il fait, il vit dans l'Hérault, près de Montpellier, il a un diplôme d'ingénieur en biotechnologie, master management agro-industriel. Il a travaillé comme chercheur à l'Institut Pasteur et dans l'industrie pharmaceutique. Il a écrit une quinzaine de livres, à la fois dans les domaines de la jeunesse, du patrimoine, de l'histoire de sa région, des sciences. Il a aussi créé en 2003 une maison d'édition, donc le Papillon Rouge, comme je disais tout à l'heure, qui publie une quinzaine de titres par an. Alors, parmi les titres publiés, il y a Histoire vraie en Languedoc-Roussillon, Nouvelle Histoire vraie en Languedoc-Roussillon, Les mystères des plus fous de France et les femmes d'exception en Languedoc-Roussillon, et un livre qui s'intitule Le Petit Bâti. Voilà, alors donc on va prendre un peu ce livre. Alors, il y a bien sûr une quatrième de couverture, c'est très intéressant. Avec ce livre, peut-on plonger dans une galerie de portraits plus ébouriffants? Alors ça, on va le voir. Alors l'auteur nous invite à découvrir 25 destins des Français dont l'histoire laisse pantois. Pourquoi ce notaire de Périgueux a-t-il passé sa vie à vouloir devenir roi de Patagonie? Alors ça, on verra ça un peu plus dans le détail. Par quelle folie un facteur s'était mis en tête de bâtir un palais avec des cailloux ramassés dans sa tournée? Comment ce boulanger provençal a-t-il fait fortune en jouant la Marseillaise avec la partie la plus intime de son anatomie? Écrit avec suspense et humour, ses récits de vie sont de véritables gourmandises. On y savoure aussi les aventures de ce président qui grimpait aux arbres de l'Élysée, de cet abbé qui fut une star mondiale de la mode féminine, ou de ce berger tourangeau illettré qui calculait plus vite que nos ordinateurs actuels. Alors, insolite, excentrique, véridique, 25 histoires qui empêchent définitivement le lecteur de reposer son livre que du bonheur. Alors bien sûr, parmi ces 25, il y a quand même des personnages qui sont connus, en fait, tout au moins pour moi. Donc il y a Ferdinand, donc le facteur, Alfred Jarry, Sarah Bernard, la volcanique, il y a Paul Deschanel, le fameux président, Ferdinand Lope, candidat perpétuel, et Auguste de Gallifet, c'est un militaire, Aurélie, roi de Patagonie, qu'on va voir un peu plus en détail, et le livre de la piquante et de la douce Clémentine, qui était une femme à barbe, il y a quand même pas tellement. Voilà. Alors, il y a bien sûr dans ce livre un avant-propos. Alors, le français est-il farfelu? Ce délicieux qualificatif tire son origine du grec pomphulux, qui signifie bulle d'air. Faut-il le rapprocher du vent léger qui souffle sous nos crânes? Non, jusqu'au XVIe siècle, ce terme servait à désigner tout ce qui est rond, dodu, rebondi. Un nom tout indiqué pour le français amateur de bonne chère qui s'arrobe avec plaisir, excès et jouissance. Rabelais sera le dernier auteur à employer ce mot avec son origine toute épicurienne. Il faudra attendre 4 siècles plus tard pour voir ressurgir tel un diable de sa boîte, le farfelu sous la plume d'André Malraux. En 1921, dans son roman « Lune en papier », il reprend ce terme pour qualifier tout ce qui est de l'ordre du bizarre, un synonyme de plus pour désigner les biscornus, les saugrenus, les fantaisistes, les fantasques ou les loufoques qui hantent les villes et les villages de l'Hexagone. Aujourd'hui, ces âmes innocentes qui égayent notre quotidien disparaissent, vaincues par la pensée unique, la peur de l'autre, le conformisme ambiant, comme on accroche aux cimes étoiles des peintres oubliés. Il fallait raconter l'histoire de ces personnages atypiques et raviver leur mémoire. Ces farfelus attachants sont allés au bout de leurs rêves, de leurs chimères. Leur combat a été si souvent pointé du doigt, puis ce livre leur donnait enfin l'occasion de lever le pouce. Alors on va voir un peu quelques-uns de ces farfelus. Il y a bien sûr Alfred Jarry. Alors Alfred Jarry, bon, on le connaît, c'est le roi Ubu. Et puis, il aura comme ami, il aura Rachid, qui est une périgourdine. Donc, Rachid, alors, elle sera, ça, ou tout au moins son mari, sera un légataire testamentaire. Alors, d'Alfred Jarry, alors l'exécuteur testamentaire est une personne que le testateur nomme pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés. Alors, l'utilité de l'exécuteur testamentaire peut apparaître dans plusieurs circonstances, et notamment dans le cas où le cujus n'a pas de famille ou que celle-ci est très éloignée. Voilà. Alors, je pense que les mallettes, quand même, veilleront à la connaissance du livre d'Alfred Jarry, Le Père Ubu. Et je crois qu'il y a quand même quelques pièces de théâtre qui ont été tirées. Alors ensuite, il y a Sarah. Alors, Sarah Bernard, évidemment, la volcanique. Alors, ce qu'on nous dit au début, Sarah n'est pas un individu, mais un complexe d'individus. Elle pourrait entrer dans un couvent, découvrir le pôle Nord, s'inoculer le micron de la rage, tuer un empereur ou épouser un roi nègre, que j'en ne serais pas surpris. Alors, bien sûr, Sarah Bernard, nous intéresse par la fréquentation du Périgourdin Mounet Sully. Enfin bon, c'est une autre histoire, on en reparlera certainement un jour. Alors, Sarah Bernard, un jour, fera une mauvaise chute et on l'amputera d'une jambe, on lui mettra une jambe de bois. Alors, bien sûr, il y a un peu d'hilarité dans tout cela, même si c'est pas drôle. Puis un jour, dans une pièce de théâtre où elle devait jouer, il y a le brigadier qui tape les trois coups et un spectateur farfelu va dire « Ah, la voilà !» Ce qui provoquera, bien sûr, l'hilarité de tous les spectateurs de cette pièce. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres personnes. Il y aura, notre facteur qui va construire son palais avec des cailloux ramassés parmi ses tournées. Alors Malraux fera inscrire son palais imaginaire au Monument de France, et il sera bien évidemment restauré et on peut évidemment le visiter. Et puis, il y a un personnage bien sûr qui nous intéresse au plus haut point, c'est Aurélie, le roi de Patagonie. Alors, le roi de Patagonie, alors voilà ce qu'on nous dit dans ce livre, un jour je franchirai les océans, vent debout à la proue de 100 tonneaux. Alors, 100 tonneaux, c'est parce que le bateau pouvait transporter 100 barriques de vin. Alors, j'irai conquérir des terres larges comme des ciels, je me ferai élire roi avec un sceptre au bout des bras, j'aurai un plastron couvert de médailles, un orgueil fou dans les yeux et des milliers de sujets allongés à mes pieds. Alors, un jour, d'un talon de botte, j'écraserai cette ville de province où j'étouffe dans mon col amidonné mes piles de dossiers, je renverrai d'un geste suffisant tous ces paysans qui se querellent pour des bouts de terre, moi la mienne, j'irai la conquérir, Saint-Beauclair, un jour, demain, dans une poignée de secondes, mon nom est Aurélie Antoine Ier. Alors, bien sûr, la ville où il étouffe, mais c'est périlleux. Voilà. Alors, le 12 mai, on va prendre un peu sa naissance, le 12 mai 1825, le hameau de la Chaise vient d'accueillir dans ses vieux murs un jeune fils. Il faut aller l'inscrire au registre de la commune de Chauniac, dans le nord de la Dordogne, au cœur du Périgord. En portant son nom, il serait un civil, le secrétaire à l'élégante plume d'oie. C'est-il que ce nourrisson va donner corps à une histoire de conquête parmi les plus incroyables qu'ait connu notre pays. Alors, le bambin à l'étrage destiné grandit dans un foyer de cultivateurs de 8 enfants qui comprend 7 frères et une sœur. Ces derniers des garçons, dans cette campagne aux longs horizons, peuplée de collines, en demi-lune où l'air est pourtant si pur, il étouffe. Antoine de Tounin suffoque dans ce hameau morne de 10 feux au sein de cette famille nombreuse où il faut trouver sa place. Il s'échappe souvent, rêve d'aventure, enfilant le long des chemins, en grimpant à la cime des chênes pour voir plus loin. Alors ensuite, ce texte poursuit ainsi. Antoine est intelligent, précoce, préfère les lignes des livres au sillon des champs de blé. Son père Jean voue une admiration sans borne à ce petit dernier. Il a deviné chez lui une flamme qui luit doucement et ne demande qu'à s'embraser. et lui offre le luxe suprême, l'école de Tourtoirac, le village voisin de l'instruction de l'avenir. Il appelle son plus jeune fils Prince, un surnom prédestiné qui influencerait sans aucun doute le jeune Antoine. Alors, on va poursuivre un peu cette lecture. À l'âge de 13 ans, son père l'amène en Corrèze, dans la ville d'Argenta, pour une grande foire aux bestiaux. C'est une excuse pour confier l'enfant qui s'est pétri d'aventure à des bateliers qui transportent des marchandises sur la haute Dordogne. À bord d'une gabarre surnommée l'Hirondelle, le jeune Antoine va vivre plusieurs jours de navigation et d'émerveillement qui vont le marquer à vie. C'est ce jour-là, Antoine, que tu as commencé à nous ruiner, lui jette sa grande sœur Zulma, qui lui voudra une haine coriace toute sa vie. Alors après une scolarité brillante à Tourtoirac, Antoine entre en 1841 au Collège Royal de Périgueux et en sort bachelier 5 ans plus tard. Dans la foulée, à la fin de l'été 1846, il franchit les portes de l'école de droit de Bordeaux, où il passe 2 ans, puis devient clerc de notaire chez un certain Léon Gilles Lagrange à Périgueux. 3 ans plus tard, son père, avant de mourir, vend une partie de ses terres familiales pour lui acheter une charge d'avoué dans cette ville aux 13 rues Hieras, qui est aujourd'hui la rue de la République. Là, l'histoire du Périgourdin va petit à petit basculer dans le gigantesque, le rocambolesque, l'incroyable, la douce folie. S'ennuie ferme dans son étude poussiéreuse derrière les rideaux de velours, les parquets cirés, les codes civils austères et les chuchotis empruntés. Antoine traite des problèmes conjugales dont il s'est fait une spécialité. Lui qui a soif de grandeur d'absolu côtoie à longueur de journée la bassesse, la cupidité, les mensonges et les trahisons. Depuis toujours, son père l'a élevé dans le culte de la famille qui avait autrefois des biens, des titres de noblesse. Ainsi, il n'a de cesse de prouver son appartenance à l'aristocratie française. Et après plusieurs tentatives, il obtient de la cour impériale de Bordeaux le droit de faire changer légèrement son nom et surtout de le faire pressionner d'une particule. Ainsi, il inverse l'ordre de ses prénoms, Antoine Tounès, qui devient soudain sur les registres Aurélie Antoine de Tounès, qu'il prononce avec délectation. Alors, le jeune avoué peut aller encore plus loin. L'enfant n'est-il pas prince dans sa famille? Désormais, il sera roi. Aurélie Antoine rêve en secret de conquérir au royaume, d'en écrire les lois, de le faire grandir depuis longtemps. Le soir à la chandelle, lorsqu'il en a fini avec les droits de passage, les infidélités et les partages, il se penche avec fébrilité sur les cartes d'un ouvrage qui conservera toute sa vie, la géographie universelle, de Malte-Brun et Cornbert, que son père lui a offert pour l'obtention du baccalauréat. De son index, il parcourt sans relâche les continents, la courbe des fleuves, les montagnes et les océans. Il cherche son futur royaume loin de sa triste bourgade périgourdine. Voilà. Alors, bien sûr, il est enterré. On peut d'ailleurs visiter son monument funéraire où il y a pas mal de choses inscrites dessus. Voilà. Et puis un jour, il tombe par hasard sur un poème, La Huracana de Conquistador Alonso de Ercea, traduit par Voltaire, qui révèle à Tounin son royal destin. Ce récit a été écrit à la gloire des Indiens Mapuche qui vivent en Patagonie, au fin fond du continent sud-américain. Voilà. Alors, je vais arrêter là cette lecture. Bon, je crois que beaucoup connaissent l'histoire de ce farfelu. Alors, je voudrais simplement rajouter qu'à Paris, on avait été, convié à une cérémonie, d'introduction à l'époque d'Aurélie Ier, roi de Patagonie. Ça avait été une belle journée, je crois même qu'il y avait eu on avait eu droit à un repas. Il y avait la reine des Périgourdins, évidemment, qui était présente. Bon, ça remonte à quelques années, et puis j'avoue que, dans ma mémoire, les choses restent un tout petit peu floues, mais enfin, la seule chose dont je me rappelle, c'est que ce fut une très bonne journée, évidemment, pour Aurélie Antoine Ier, roi de Patagonie. Voilà, mais je vais arrêter là pour aujourd'hui cette lecture et je vous souhaite une bonne semaine. Je crois qu'il va faire beau, un peu frais, mais donc je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.